L'Europe est à vous. Le rendez-vous des jeunes avant les élections européennes. Un podcast du soir présenté par Sarah Saadi Garcia.
La seduta est aperta.
Yo voy a votar.
Et tu?
Vota, 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 vota.
Une Europe qui marche, une Europe nouvelle, une Europe qui progresse, une Europe qui innove.
Votez, 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 votez.
Ich wähle.
Und du?
Je vote.
Wahlen, wahlen, wahlen.
I vote.
President Thatcher. President Cox.
Ah, ya has votado. Tu sí que sabes.
Top.
Grande.
Je vote. Je vote.
L'Europe est à vous.
Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de L'Europe est à vous. Cette semaine, comme vous l'avez déjà peut-être entendu, le podcast du soir s'est intéressé à l'intelligence artificielle et à son impact déjà concret dans nos vies. Pour rester dans le thème, c'est la question que nous allons aborder aujourd'hui dans L'Europe est à vous, avec plusieurs jeunes forcément, et notre journaliste expert en nouvelles technologies, Philippe Laloux. Il reviendra notamment sur ce que l'Union européenne fait pour encadrer l'intelligence artificielle, tout en encourageant son développement. On pourrait la qualifier de futuriste, loin de nous et un peu abstraite, mais l'intelligence artificielle, l'IA pour les initiés, est en fait déjà bien présente dans nos vies au quotidien et elle prend de plus en plus de place. Chez les plus jeunes, elle s'est déjà invitée à l'école et à l'université, notamment via ChatGPT ou encore Midjourney, deux logiciels intelligents qui peuvent nous faire gagner un temps fou, mais qui posent aussi de nombreuses questions éthiques. Et les jeunes belges dans tout ça, ils en pensent quoi de l'intelligence artificielle ?
Moi, c'est Jérémy Ngo, j'ai 25 ans et je viens d'Anguien. Je dirais futur. Voilà, c'est le mot que j'emploierais pour parler de l'IA. Futur, mais à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire futur qu'il faut encore structurer et apprendre à connaître.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis étudiante et je viens de tourner. Je dirais que c'est un outil qui permet de faciliter en quelque sorte certaines activités humaines.
Alors, je m'appelle Léo Rochet, j'ai 23 ans et je viens originairement de Mons, mais ça fait plusieurs années que je suis à Bruxelles. Pour moi, l'IA, c'est un outil qui peut nous permettre de notamment faire des recherches et accélérer certains processus qui pouvaient prendre plus de temps avant. Je pense notamment aux recherches qu'on peut faire sur Google ou sur ChatGPT. ChatGPT, on aura la réponse deux fois plus vite que sur Google, quoi. Moi, je m'en sers dans ma vie, que ce soit pour écrire, pour chercher des sujets, pour chercher des informations que je recherche. Après, je vais chercher aussi sur Google pour voir d'où ça vient, etc. Mais j'en utilise quand même assez souvent. Ouais.
Une technologie avec un grand potentiel donc, qui pose tout de même pas mal de questions, notamment celle de la régulation d'une technologie aussi puissante. On a discuté de la manière dont ça se passait au niveau européen avec Philippe Laloux, journaliste au soir et spécialiste du numérique. Bonjour Philippe.
Bonjour Sarah.
Alors comment pourrait-on donner une définition assez simple et succincte de l'intelligence artificielle ?
C'est vraiment une très bonne question. C'est un concept qui, en réalité, on ne s'en rend pas compte, mais l'intelligence artificielle, c'est né dans les années 50, juste après la guerre. Je pense que c'est arrivé avec ChatGPT, hein, mais pas du tout, ça existe depuis très longtemps. Et donc c'est très difficile de donner une définition extrêmement précise, mais communément, on va dire qu'on définit l'intelligence artificielle comme un ensemble de disciplines scientifiques et de techniques, en fait, qui visent à réaliser des machines, pour faire court, capables de simuler l'intelligence humaine.
Comment l'Union européenne peut-elle réguler cette technologie, cette intelligence ? Est-ce que c'est important de le faire ?
La Commission européenne a proposé un texte il y a 2 ans. Ils ont commencé à discuter d'un cadre réglementaire pour fixer un petit peu les limites et un cadre, oui, pour développer ces techniques. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient commencé à parler de ça alors que même que ChatGPT n'existait pas. Donc c'est pour vous donner une petite idée de la rapidité avec laquelle ça va. Donc finalement, eh bien, ils se sont entendus. J'ai plus la date précise en tête, mais vraiment, il y a un mois, au début de cette année, aux alentours de février, ils se sont mis d'accord sur un texte qui s'appelle l'AI Act et qui donne toute une série de balises, de choses qu'on ne peut pas faire, qui sont considérées comme étant extrêmement risquées et des choses qui seront, on va dire, sous monitoring. Moi, j'ai un peu envie de comparer ça à un code de la route. Il balise les usages de la voie publique. Mais ce n'est pas lui qui définit le cahier des charges de la voiture. Ce n'est pas parce qu'il y a un code de la route qu'on ne peut pas inventer des voitures autonomes et des voitures électriques et qui sait, peut-être dans 20 ans, des voitures qui tournent au jus de betterave. Et tout le débat par rapport à la régulation de l'IA, c'était ça. Il y avait eu pas mal de pays, hein, surtout la France, mais un peu l'Allemagne aussi, qui disaient non, surtout ne régulons pas parce que ça va freiner l'innovation. La régulation est vue un peu comme un tue-l'amour de l'innovation. À cela, on pourrait répondre qu'il y a 20-25 ans, quand on a commencé à développer vraiment les grandes plateformes Internet et les grandes innovations d'Internet, il n'y avait pas vraiment de régulation Internet. Et ça n'a pas empêché l'Europe d'être à la traîne, en fait.
Dans l'IA, il y a des avantages et des inconvénients. Je prends les IA de base, donc je suis community manager. Et l'IA, elle me sert pour retirer des arrière-plans qu'il n'y avait pas. ChatGPT, qu'on utilise assez souvent, que ce soit pour corriger des fautes ou écrire des descriptions Instagram. Donc oui, elle est là dans la vie de tous les jours. Mes amis l'utilisent, je l'utilise moi-même.
J'utilise ChatGPT pour revoir des textes que j'écris, pour un peu améliorer ma manière d'écrire. Mais je lui demande jamais concrètement quelque chose, c'est moi qui lui donne un produit et qui l'améliore. Moi je pense que c'est plus une sorte de béquille sur laquelle on peut s'appuyer en fait. Je l'utilise pas pour créer quelque chose, non.
Par exemple, pour certaines images, j'utilise aussi Midjourney, qui est un moteur en fait, qui nous permet de, avec des phrases, on peut avoir des images. Et c'est pas mal, mais ça pose aussi des questions. Mais ça pose des questions au niveau éthique, parce que l'IA, en fait, elle reprend à chaque fois des informations qu'elle trouve. C'est pas elle qui les invente. Donc, par exemple, quand j'ai une image sur Midjourney qui arrive, ben, l'IA, elle s'est inspirée en fait, d'images qu'elle a trouvées sur le net et d'images qui appartiennent à des personnes. Et donc, c'est plutôt au niveau du droit que ça pose des questions. Utiliser des IA pour faire des images pour un article par exemple, c'est très peu cher voire gratuit, mais en même temps pour les métiers comme le graphisme, la photographie, etc., bah là ça pose quand même plus problème.
Ça diminue un peu ta créativité personnelle. Bah, je trouve que c'est toujours bien d'utiliser son cerveau avant d'utiliser une intelligence artificielle.
Et on peut tomber, pour les jeunes qui sont sur TikTok, sur plusieurs musiques avec des voix d'artistes qu'on aime, mais en se rendant sur leur plateforme publique à eux, on peut se rendre compte que le son n'est jamais sorti. Et on se pose la question du coup, d'où sort ce son? Est-ce que c'est un leak? Est-ce que c'est l'artiste qui l'a balancé, mais pas partout? Et en fait, non, c'est de l'intelligence artificielle. Donc des personnes ont posé leur voix naturelle à eux, et grâce à des logiciels, on réussit à pitcher leur voix pour donner la sonorité, le timbre de voix de l'artiste que vous écoutez tous les jours. Ça me fait un peu peur, parce que niveau éthique, là on sort complètement du cadre, parce que quand la personne après passe le step juste au-dessus et se dit « je vais la placer sur les plateformes de streaming qui eux rémunèrent », bah là tu voles un peu le travail et l'identité de l'artiste. C'est vrai que c'est kiffant, c'est marrant de voir qu'on peut faire des associations de voix, des featuring entre Angèle et Michael Jackson. Ok, si ça s'arrête à la vidéo, drôle. Quand tu veux commercialiser le truc derrière et prendre des sous, là je suis un peu moins chaud.
Un point moi qui m'interpelle beaucoup, c'est l'anthropomorphisme. C'est la faculté de donner des traits humains à un objet. Typiquement, c'est le fait de considérer ChatGPT presque comme un humain. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que comme le but de ces robots conversationnels, c'est d'imiter le langage humain, on est très vite déconcerté. Et donc, il y a un risque d'établir une relation humaine avec des machines qui ne savent absolument pas la différence entre le bien et le mal, qui n'ont aucune notion d'éthique, qui ne savent pas ce que c'est la vie, qui ne savent pas ce que c'est la mort. Il y a un deuxième danger, c'est de ne pas réaliser que l'un des maillons faibles de l'intelligence artificielle, c'est précisément l'être humain. Ces machines, elles ne sont pas nées toutes seules en s'auto-façonnant. Ce sont des êtres humains derrière qui vont coder les algorithmes, qui vont les fabriquer, et ce n'est pas une surprise aujourd'hui dans le milieu de la tech qui est aux manettes essentiellement des hommes blancs. C'est comique et tragique à la fois. Si vous demandez à un logiciel de génération d'images de représenter un conseil d'administration d'une société, il n'y aura que des hommes en cravate blancs. L'intelligence artificielle va amplifier tous nos biais humains. Sans aucune conscience. L'homme peut encore se remettre en question. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, peut encore se remettre en question par rapport à des idées sexistes, racistes, etc. La machine en est totalement incapable. Le risque inhérent à ça, c'est que tous ces contenus biaisés, et c'est déjà un peu le cas maintenant, risquent d'envahir le web.
Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est la vision négative qu'on a des IA, parce que oui, effectivement, ça va supprimer des métiers, etc. Mais depuis toujours, il y a des métiers qui ont été supprimés à cause ou grâce à des inventions. Et je pense que l'IA, il faut pas le prendre comme quelque chose qui va remplacer forcément des métiers, mais quelque chose qui va nous aider à pouvoir moderniser certaines manières de faire certains métiers, comme le journalisme, par exemple.
Pour moi, c'est une évolution comme une autre, comme le smartphone, comme Internet. C'est des évolutions qui nous font peur au début et puis qui, au final, seront la banalité. Donc, on va clairement s'adapter à cet outil et j'espère qu'on en fera du bon.
On a toujours fait peur à l'être humain en disant qu'ils vont être remplacés par certaines choses. Avant, il y avait le monsieur qui venait déposer le lait devant la porte à la maison. On a dit « Oh, qu'est-ce qu'il va faire ? » Il s'est toujours reconverti à quelque chose. On aura toujours besoin de l'humain sur la Terre. Je pense pas que les machines prendront le dessus. Il y a des métiers qui vont être impactés, c'est sûr. C'est sûr. Parce que pourquoi devoir payer une personne autant alors que grâce à l'IA, on peut faire la chose rapidement et sans coût ?
Je trouve, si on voit le côté positif des choses, que c'est un magnifique signe d'espoir pour des jeunes de se dire que dans une vie professionnelle, il y a toute une série de tâches un peu rébarbatives, répétitives, justement qu'on cherche à automatiser, que l'homme réalise toujours, mais de manière un peu pénible, un peu de manière laborieuse, eh bien, il va peut-être pouvoir déléguer ça à une sorte de super assistant, super doué, qui râle jamais, qui travaille 24 heures sur 24 et qui va vous permettre de gagner du temps dans certains cas ou de vous pré-mâcher le travail. Ça ne remplace pas l'homme. Ce que produisent ces machines doivent toujours être validé par un homme. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les humains restent au cœur de tous ces processus. Donc je pense, oui, qu'on est à l'aube d'une vraie révolution. Elle sera très rapide, elle va toucher tous les pans de la société. Et il nous appartient aujourd'hui de donner la direction. Un couteau de cuisine peut tout aussi bien servir à beurrer une tartine qu'à tuer son voisin. Et on a toutes les clés aujourd'hui pour en faire juste un ustensile pour beurrer une tartine.
C'est déjà la fin de ce troisième épisode de L'Europe est à vous. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode et à en parler autour de vous. À samedi prochain.